problèmes justement de ces deux ateliers qui sont assez proches sur certains questionnements. Tout simplement en partant du fait que les démarches qui se revendiquent d'une transition écologique se développent aujourd'hui, en passant par la question des délits en transition jusqu'à des politiques plus institutionnelles de transition écologique. En France, notamment, la question de la transition écologique est envisagée par les institutions comme une stratégie d'action et de changement dans une perspective de développement durable, avec une multiplication d'initiatives nationales. Alors, on a eu la création d'un Conseil national de la transition écologique en 2012, une loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en 2015, une stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable qui court de 2015 à 2020 et qui souvent prennent pour appui la question de l'habitat, mais aussi d'autres questions, les mobilités ou l'agriculture, par exemple. Ces politiques sont accompagnées d'un arsenal réglementaire et de dispositifs fiscaux qui visent une transformation des pratiques individuelles et collectives, et on retrouve une multiplicité d'outils incitatifs et de discours à forte charge normative qui accompagnent ces formes de transition. Or, ces politiques et ces pratiques de la transition s'avèrent très contradictoires et paradoxales dans la manière dont elles envisagent et prennent en charge les populations les plus fragiles. On peut faire un lien un peu grossier avec l'actualité des Gilets jaunes qui montre bien que ces politiques remettent en jeu les manières d'habiter et créent ou amplifient parfois des vulnérabilités chez les classes sociales les plus en difficulté. Le parti pris d'une part du réseau ACDD, ça a été de travailler sur ces politiques et ces pratiques qui se revendiquent de la transition écologique et qui sont parfois porteuses de mécanismes qui sont assez inquiétants du point de vue des inégalités sociales et spatiales qu'elles véhiculent. Plusieurs séances ont permis à la fois d'un côté de délimiter les contours et les formes de cette transition au travers des quartiers, des villes en transition, au travers de l'habitat participatif, de la smart city, etc. Mais aussi d'autres séances qui ont permis d'analyser de manière critique les effets de ces politiques et pratiques de transition, sous l'angle par exemple des sacrifices demandés aux acteurs, sous l'angle des normes qui sont produites et diffusées, ou de la question des injustices, et ici de la production des vulnérabilités. Alors ça rejoint des questionnements développés par l'atelier vulnérabilité essentielle du réel.
Effectivement, lorsqu'on a nous réfléchi à ce qu'on pouvait peut-être tirer comme fil par rapport au sujet qui a été traité dans le premier cycle, la question de la fabrique de la ville durable et de ce qu'elle pouvait engager en quelque sorte comme mise en fragilité des individus, mais aussi peut-être mise en fragilité aussi des métiers, du parcours professionnel, nous a paru être un axe, en tout cas un thème qu'il fallait investir. Donc c'est véritablement l'idée de traiter le fait que la durabilité, cette notion-là, un peu fourre-tout au départ, est devenue un enjeu quasiment multi-échelle, multiscalaire en termes de fabrique de la ville, qui engage à la fois des processus de production de la ville, de conception, mais aussi de réception. Par rapport à ce que disait tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de regarder quelque chose qui n'est pas forcément considéré, c'est la réception de cette ville et ce que ça engage en termes de pratiques habitantes dans le fait d'accueillir chez soi, parce que c'est le cas dans le champ de la résidence, des solutions, des préconisations. Et une des grandes particularités de cette ville durable, c'est qu'elle est, c'est une ville sous injonction. Injonction à respecter un certain nombre de règles, de normes, de règlements, de lois, d'attendus thermiques, acoustiques, etc. Mais aussi de mots d'ordre, en particulier l'idée de changer notre manière d'être, notre manière d'habiter, notre manière de vivre, notre mode de vie, en manière plus globale. Et de ce fait, cette injonction, elle fait écho à des thématiques qui existent déjà depuis très longtemps dans la ville. Les injonctions au vivant sont des injonctions à la civilité qui ont été formulées depuis, on va dire, surtout la fin du 19e siècle, à partir du moment où on a cherché à produire des solutions à grande échelle pour résoudre des enjeux de société dits communs. Soit résoudre par exemple le besoin de logement de masse à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et on voit en quelque sorte que ces injonctions à habiter différemment se renouvellent à partir de la question de la durabilité qui a la particularité, ça aussi ça nous a intéressé, d'être recouverte en France par la question de la sobriété, c'est-à-dire que l'énergie vient recouvrir énormément de choses en termes de solutions, en termes de préconisations. réalisation professionnelle et d'habiter. Donc véritablement, cette idée attachée à la vulnérabilité résidentielle et la durabilité, c'est aussi d'interroger le lien avec l'institution qui produit la ville, mais qui aussi encadre énormément les pratiques d'habiter, et de véritablement aussi, ça je reviendrai plus en détail tout à l'heure dans ma courte présentation, c'est d'interroger comment les habitants se saisissent de ces injonctions à la durabilité, mais comment ils en font une ressource de lutte, en quelque sorte, contre leur propre fragilité, qui bien évidemment sont identifiées par eux-mêmes. Ça, c'est le premier à considérer cela. Donc, véritablement, en essayant de croiser nos deux approches, on a cherché aujourd'hui à répondre à la question de l'épreuve qui pouvait être, en tout cas qui était une interrogation commune, une épreuve que vivent les citadins à habiter une ville sous l'injonction de la transition. Alors, c'est pas forcément qu'une épreuve, mais on a tendance à voir qu'il y a quand même un recouvrement, là aussi, par une forme de vulnérabilité sociale et résidentielle de la fabrique de cette ville. C'est pas quelque chose qui se fait de manière aisée, et on voit bien qu'au dispositif se superposent des modes de vie qui ne sont pas forcément quelque chose qui coule de source, en quelque sorte, et qui est extrêmement marqué par la nécessité de changer, de faire évoluer ces pratiques. Et donc la dimension normative marque énormément l'habité et fait que cette notion, on va la retrouver, je pense, dans un certain nombre de présentations, les enjeux des normes, mais aussi la question du conflit qui oppose beaucoup de gens. Alors, la tendance à voir que l'institution s'oppose aux individus, et les individus peuvent s'opposer aux institutions, mais peut-être aussi entre eux. C'est-à-dire que la question qu'on peut poser, c'est qu'est-ce qui est mis en commun par les citadins dans leur propre manière de s'approprier les questions de sobriété, les questions de transition, les questions d'évolution des modes de vie.
Très bien. Voilà le cadre donc problématisé de la journée. Alors, le programme a un petit peu évolué par rapport à celui qui avait été diffusé. On a la chance d'avoir une diversité d'intervenants, à la fois d'horizons disciplinaires assez différents, des sociologues, anthropologues, géographes, urbanistes, économistes, venant de territoires différents, Montpellier, Marseille, Lyon, Paris. On laissera chacun et chacune se présenter plus longuement, à la fois dans les interventions et puis dans les échanges avec tous et toutes. La matinée sera centrée sur les formes de ces vulnérabilités autour d'objets assez différents. D'abord, notre première intervention, on s'est attribué le rôle de premier intervenant pour lancer un petit peu la journée autour de la manière dont l'habitat durable produit ou reproduit des formes de vulnérabilité. Ensuite, on aura l'intervention de Valérie Lapoletilleul, qui représentera Isabelle Bellechkaoui, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, sur la question des vulnérabilités multiples dans des espaces qui sont peu intégrés aux espaces urbains. Donc on parle là des espaces productifs, notamment les zones industrielles et portuaires, qui sont au cœur de la transition énergétique. La troisième intervenante qui était dans cet angle d'analyse ne pourra malheureusement pas être parmi nous, c'est Hélène Rayet, qui devait faire une présentation autour de la mobilité durable et de la production de vulnérabilité par les stratégies de mobilité durable. Donc, on vous invite à aller voir ces travaux qui sont tout à fait intéressants. On aura Denis Pech qui jouera le rôle d'animateur, de lancer des questions. Et de pouvoir faire part aussi de ses propres expériences de recherche et autres. On en dira quelques mots tout à l'heure. Et puis cet après-midi, on a deux interventions qui permettront de mettre en débat la manière dont les politiques publiques, les chercheurs et les acteurs s'emparent de ces questions de vulnérabilité. Tout d'abord avec l'intervention de Sandrine Michel, qui est une économiste et qui présentera un peu les débats autour de la mesure des vulnérabilités, plus particulièrement sur le cas de la précarité énergétique. Et puis Johanna Alice qui interviendra sur la manière dont ces vulnérabilités sont mises en évidence par des chercheurs et par des politiques publiques et les mobilisations qui peuvent en découler. Avant de débuter nos interventions, on souhaite remercier le laboratoire Ardev, l'UMR acteur ressources et territoires dans le développement, qui nous accueille aujourd'hui, qui nous soutient dans l'organisation de la journée, de manière plus générale L'accueil des laboratoires et des institutions est une aide essentielle pour organiser nos ateliers un peu partout en France. Donc merci encore. Et puis, comme l'a dit Jérôme, on retrouvera les enregistrements de toute la journée sur le site du réseau ACDD. Pour l'instant, le site de Réal ne le permet pas, mais peut-être on va y arriver un jour. Voilà.